Comment ça, vous retrouvez pas l'argent? Il y en a pour 4 millions de dollars, merde, ça se trimballe pas dans une tirelire. Didi vituperait dans son téléphone portable, bien collé à l'oreille. Il sortait de chez les Jones et une demi-douzaine de photographes les mitraillaient. Le cours qui leur manquait à l'école de police, comment être toujours bien coiffé pour les photos. Non, je veux pas demander aux fédéraux. Retrouver de l'argent, on l'a déjà fait, on peut le faire encore. D'accord, d'accord, il y en a pour plusieurs jours, je vous donne 2 heures. Je sais, alors bougez-vous. Didi referma son téléphone, l'air grincheux. Mauvaise nouvelle ? Demanda Miller. Il se caressait la moustache sans trop savoir comment se tenir, n'appréciant visiblement pas plus qu'elle les feux des médias. Ils s'arrêtèrent au pied du perron car ils ne voulaient pas avoir cette conversation à portée d'oreille des journalistes qui vociféraient déjà des questions. Cooper s'est heurté à un mur en cherchant l'origine de la fortune des Jones, expliqua Didi. Un truc comme quoi l'argent aurait été viré à sa banque actuelle depuis un compte offshore et que les banques offshore renâclent un peu à donner des infos. D'après Cooper, il faudrait qu'on commence par inculper Jones pour un premier délit, pour que peut-être ensuite il se range à notre point de vue. Évidemment, pour qu'on puisse inculper Jones, il faudra encore qu'on sache d'où vient l'argent, afin de découvrir sa véritable identité. À ce stade, c'est le serpent qui se mord la queue. Pas de bol popole, dit Miller. Elle leva les yeux au ciel, se mordilla la lèvre inférieure. J'ai l'impression d'être coincée dans un mauvais épisode de New York Police Judiciaire. Comment ça ? Regardez notre éventail de suspects. Nous avons le mystérieux mari, sans doute adepte de la pornographie sur Internet, le voisin délinquant sexuel fiché, un élève de 13 ans amoureux de son enseignante disparue, un flic informaticien qui paraît prendre un intérêt tout personnel à l'enquête, et pour couronner le tout, le père de la victime qui était brouillé avec elle, qui savait ou ne savait pas qu'elle avait subi des mauvais traitements dans son enfance et qui avait beaucoup de raisons de vouloir étouffer l'affaire. Tout ça m'a l'air inspiré de faits réels, sauf que j'ignore complètement de quels faits réels ça s'inspire. Peut-être que c'est comme dans ce vieux film, Le crime de l'Orient Express. Ils sont tous coupables, ce serait marrant. Elle lui lança un regard. Vous avez un curieux sens de l'humour, Miller. C'est le métier qui veut ça. En cas de doute, continuez à faire parler tout le monde. Didi voulait interroger Ree une nouvelle fois, mais la spécialiste Marianne Jackson lui opposa un refus. 3 auditions en 3 jours, ce serait non seulement excessif pour l'enfant, mais ça ressemblerait à du harcèlement. À supposer que Ree leur donne réellement une indication utile, un bon avocat de la défense plaiderait qu'on lui avait soutiré des révélations. Il fallait laisser une journée de plus à la fillette, ou mieux encore, découvrir un nouvel indice qui justifierait une 3e audition. Là, ce serait moins risqué. Didi et Miller se tournèrent donc vers leur casting de suspects. Au cours des dernières 48 heures, ils avaient interrogé Jason Jones, Ethan Hastings, Aidan Brewster et Wayne Reynolds. Ce qui leur laissait le juge Maxwell Black. À l'heure qu'il était, celui-ci se tenait sur le trottoir d'en face et passait de groupe en groupe dans la foule des journalistes, un peu comme le ferait un politicien dans une salle de donateurs au portefeuille bien garni. Déjà, Didi ressentait un malaise. Ce type n'avait pas vu sa fille depuis 5 ans, et apprenant sa disparition, il sautait dans un avion pour Boston pour sourire devant les caméras et serrer la pince aux vedettes de l'info locale. Le juge n'avait pas l'air de s'en faire d'ailleurs. Il était vêtu d'un pimpant costume bleu clair, agrémenté d'une cravate rose pastel et d'une pochette en soie rose coordonnée, très gentleman du Sud. Et puis il y avait évidemment cet accent traînant qui semblait tellement suave dans cette région où l'on ne prononçait pas les R. Lorsqu'ils s'approchèrent des camionnettes, Miller resta en retrait pour laisser la direction des opérations à Didi, qui se frayait un chemin dans la mêlée. « Capitaine, capitaine !» commença la nuée des journalistes. « Commandant !» corrigea brusquement Didi, parce qu'il pouvait au moins lui accorder ça. « En sait-on davantage sur l'endroit où se trouve Sandy ? Allez-vous arrêter Jason ? Comment la petite Ree tient-elle le coup ? D'après sa maîtresse de maternelle, elle n'a pas été à l'école depuis mercredi. Est-il exact que Jason Jones refusait à Sandy le droit de parler à son père ?» Didi lança un regard sévère à Maxwell Black. Clairement, c'était au bon juge qu'il devait ce petit détail croustillant. Elle ignora les journalistes, posa une main ferme sur l'épaule de Maxwell et l'entraîna à l'écart de la forêt de micros et de caméras qui s'était brusquement dressée. Commandant Didi Warren, accompagné du capitaine Brian Miller, nous aimerions discuter un peu avec vous si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Le juge ne protesta pas, il se contenta de hocher la tête avec élégance en saluant de la main ses nouveaux copains journalistes. Il devait être un vrai rigolo dans sa salle d'audience, songea Didi avec irritation. Le monsieur loyal d'un grand cirque. Elle l'accompagna jusqu'à Miller, puis jusqu'à leur voiture, et les journalistes leur emboîtèrent avidement le pas dans une tentative désespérée pour surprendre une bribe de conversation, une révélation sensationnelle. Que Sandra était morte, qu'on allait arrêter le mari, ou peut-être que la police voulait interroger le père de Sandy, considéré comme un nouveau suspect. D'une manière ou d'une autre, cela entretiendrait la fièvre journalistique, ferait croître l'intérêt de manière exponentielle. Maxwell s'installa à l'arrière de la voiture de Didi et ils démarrèrent. Didi joua du klaxon et, dans sa meilleure imitation de Britney Spears, visa le pied du photographe le plus proche. Les caméramen s'écartèrent aussitôt et elle parvint à s'engager dans la rue sans incident. Elle était presque déçue. « C'est vous qui êtes chargé de l'enquête sur ma fille ?» dit Maxwell de sa voix traînante depuis la banquette arrière. « Oui, monsieur. Parfait, j'avais hâte de discuter avec vous. Je possède quelques informations sur mon gendre, à commencer par le fait qu'il ne s'appelle pas Jason Jones. » Ils conduisirent le juge au commissariat. C'était la méthode orthodoxe pour auditionner quelqu'un et Jason Jones les avait tellement envoyés voir ailleurs sur ce point que Didi était contente de respecter la procédure au moins pour une personne. La salle d'interrogatoire était exiguë et le café immonde, mais Maxwell Black conserva son sourire charmant même en s'asseyant sur la chaise pliante métallique coincée entre la table et le mur blanc cassé. On aurait dit qu'il était invité à une partie de campagne. Le juge ne plaisait pas à Didi. Trop d'assurance, trop de bonhomie. Sa fille avait disparu. Il se trouvait dans un grand commissariat, dans une pièce pas ventilée. Il aurait dû transpirer un peu. C'est ce que faisaient les gens normaux, même les innocents. Didi prit son temps pour s'asseoir, sortir un calepin jaune, puis installer le dictaphone au milieu de la table. Miller s'adossa dans sa chaise métallique, bras croisés sur la poitrine, l'air de s'ennuyer. C'était toujours une bonne stratégie face à quelqu'un qui appréciait manifestement qu'on s'intéresse à lui autant que le juge Black. « Donc vous êtes arrivé quand, à Boston ?» demanda Didi sur un ton neutre, simple bavardage poli. « Hier, en début d'après-midi. Je regarde toujours les infos en prenant mon café le matin. Imaginez-vous ma surprise quand j'ai vu la photo de Sandy à l'écran. J'ai tout de suite su que son mari avait fait quelque chose d'épouvantable. Je suis sortie en coup de vent de mon bureau et j'ai filé direct à l'aéroport, en laissant mon café et le reste sur la table. » Didi s'appliquait avec un soin exagéré à disposer ses stylos. « Vous voulez dire que vous portiez déjà ce costume hier ?» demanda-t-elle parce que ça ne concordait pas avec ses souvenirs des images télé. « Je suis passée en vitesse prendre quelques affaires chez moi, » corrigea le juge. « Je me doutais déjà que ça risquait de se prolonger. »« Je vois. Donc vous avez vu la photo de votre fille à la télévision. Vous êtes rentrée chez vous faire vos valises, peut-être mettre quelques affaires en ordre. J'ai une gouvernante qui s'occupe de tout ça, commandant. Je l'ai appelée sur la route, elle a tout préparé pour moi. Et me voilà. » « À quel hôtel êtes-vous descendu ?»« Au Ritz-Carlton, bien sûr. J'ai un faible pour leur thé. » Didi ouvrit de grands yeux. Elle ne devait pas être assez du Sud parce que parmi les critères pour choisir un hôtel, elle n'avait jamais songé au thé. « Sur quelle compagnie, votre vol ?»« Delta. »« Numéro de vol ? Heure d'atterrissage ?» Maxwell lui lança un regard étonné mais fournit les renseignements. « Pourquoi ces questions ?»« Procédure de routine, » lui assura-t-elle. « Vous vous rappelez cette vieille série, Badge 714 ?»« Juste les faits, madame. » Il s'illumina. J'adorais cette série. « Alors vous y êtes, police de Boston, pour vous servir. »« Est-ce qu'on va parler de mon gendre maintenant ? Parce que je peux vous dire qu'il y a certaines choses que vous devriez savoir. »« Chaque chose en son temps, » répondit Didi, polie mais directive. À côté d'elle, Miller se mit à faire tourner son stylo autour de son doigt pour détourner l'attention de Maxwell. « Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à votre fille, Sandra Jones ?» demanda Didi. Maxwell la regarda sans comprendre, l'air momentanément distrait. « Hein ? Oh, il y a des années, Sandra n'était pas du genre à passer un coup de fil. Vous ne l'avez pas appelée pendant tout ce temps ?»« Eh bien, si vous voulez savoir, nous avons eu un différend juste avant son départ. Ma fille n'avait que 18 ans, elle était bien trop jeune pour traîner avec des types comme Jason, et c'est ce que je lui ai dit. » Black poussa un profond soupir. Malheureusement, Sandy a toujours été du genre têtu. Elle s'est enfuie en pleine nuit, enlevée, j'imagine, et depuis, j'attends toujours un coup de fil ou au moins une carte postale. Avez-vous signalé la disparition de votre fille après son départ ? Non, je ne l'ai pas considérée comme disparue. Je savais qu'elle s'était enfuie avec ce garçon, c'était le genre de choses qu'elle faisait. Vraiment ? Elle avait déjà fugué ? Black rougit. Les parents sont payés pour connaître les défauts de leurs enfants, expliqua-t-il d'un air guindé. Ma fille, Sandy, a très mal vécu la mort de sa mère. Elle a eu une période de rébellion, tout ça. Elle buvait, elle découchait. Elle se montrait une adolescente, disons, très délurée.
Sexuellement, vous voulez dire ? Précisa Didi.
Oui.
Comment le savez-vous ?
La gamine ne se gênait pas. Elle revenait au petit matin, empestait la cigarette, l'alcool et le sexe. Moi aussi, j'ai été adolescent, commandant. Je sais ce que font les jeunes.
Combien de temps ça a duré ?
Sa mère est morte quand elle avait 15 ans.
Comment ?
Crise cardiaque, dit Black, puis il parut se raviser. Il regarda Didi, puis Miller, qui faisait toujours tourner son stylo, puis reporta à nouveau son attention sur Didi. En fait, ce n'était pas une crise cardiaque. C'est la version que je donne depuis si longtemps qu'elle a pris les apparences de la réalité, comme ça arrive avec les mensonges. Mais autant que vous le sachiez, ma femme, la mère de Sandra, s'est suicidée au monoxyde de carbone. C'est Sandra qui a découvert le corps dans le garage.
Votre femme s'est tuée chez elle,
dans sa propre Cadillac.
Votre femme avait des antécédents de dépression ?
À nouveau, cette hésitation à peine perceptible. Ma femme buvait des choses qu'on ne pourrait sans doute plus considérer comme thérapeutiques, commandant. Mon travail est très prenant, vous comprenez. J'imagine que la solitude lui a pesé.
Votre femme s'entendait bien avec Sandra ?
Ma femme n'était peut-être pas la mère idéale, mais elle a fait de son mieux.
Et vous ?
Comme je l'ai dit, j'étais probablement trop souvent absent, mais j'aime ma fille, moi aussi.
À tel point que vous n'avez pas essayé une seule fois de la retrouver au cours des 5 dernières années.
Oh, mais si, j'ai essayé.
Comment ça ?
J'ai engagé un détective privé, un des meilleurs du pays. Mais c'est là que ça devient intéressant. Celui que Sandra m'a présenté comme son futur mari ne s'appelait pas Jason Jones, mais Jason Johnson.
Didi s'excusa pour aller chercher un verre d'eau.
Pendant qu'elle était sortie, elle fit un détour par le bureau du capitaine Cooper et l'avisa qu'il fallait qu'il lance des recherches sur le passé de Jason Johnson en plus de Jason Jones. Cooper lui lança un regard lourd de sens. Il était le meilleur de la brigade pour ce genre de travail, mais s'il n'avait pas au moins l'initiale du deuxième prénom ou un autre détail, faire le tri entre les tombereaux de Jason Johnson n'allait pas être plus facile que de faire le tri dans les listes de Jason Jones.
« Je sais, lui assura-t-elle. Tu adores ton boulot et chaque journée est plus gratifiante que la précédente. Amuse-toi bien. »
Didi regagna la salle d'interrogatoire, mais plutôt que de rentrer, elle choisit de profiter du spectacle de l'autre côté du miroir sans teint. Le juge Black était bien trop à l'aise avec les femmes. Transpirant le charme du Sud, il pourrait leur raconter de belles histoires jusqu'à la Saint-Glinglin. Elle se dit donc qu'il serait peut-être plus productif de laisser Miller le cuisiner un peu. Jusque-là, Miller n'avait pas fait un geste pour quitter sa posture avachie et Maxwell donnait déjà des signes d'impatience devant le constant manque d'intérêt de l'enquêteur. Le juge joua avec sa cravate, lissa sa pochette, prit quelques gorgées de café. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il souleva la tasse. Sous cet angle, Didi voyait les taches de vieillesse sur le dos de sa main, mais son visage était relativement dépourvu de rides et séduisant. C'était un bel homme. Riche, charmant, puissant. Si bien qu'elle se demandait pourquoi il n'y avait pas encore de deuxième Madame Black.
Vous saviez que Sandra s'était fait mettre en cloque ? Demanda soudain Miller, avant de s'enfuir.
Le juge cligna plusieurs fois des yeux, sembla fixer son attention avec un temps de retard sur l'enquêteur.
Je vous demande pardon.
Sandy vous a dit que Jason Johnson ou Jason Jones ou je ne sais quoi l'avait mise enceinte ?
Je savais qu'elle était enceinte.
Ça me ferait chier, dit Miller comme pour faire la conversation. Qu'un mec de 30 ans fasse un gosse à ma fille de 18, j'aurais eu la rage à votre place.
Bon, comme je disais, il faut connaître son enfant. Sandra filait un mauvais coton, c'était qu'une question de temps avant qu'elle tombe enceinte, voire pire. D'ailleurs, je crois pas que ce soit Jason qui l'ait mise enceinte.
Miller arrêta de faire tourner son stylo.
« Ah bon ?»«
Non. » »« Je me souviens comment était la maman de Sandy pendant sa grossesse. Les 3 premiers mois, Missy arrivait à peine à s'extirper du lit tellement elle était fatiguée et nauséeuse. Il arrivait la même chose à Sandra. D'un seul coup, elle est tombée malade, suffisamment pour rester à la maison et dormir tout le temps.
J'ai cru qu'elle avait attrapé un virus, mais ça a duré assez longtemps pour que je soupçonne la vérité. Peu de temps après, elle a paru se rétablir. Elle s'est même remise à sortir. C'est après cette période qu'elle m'a parlé pour la première fois de cet homme qu'elle venait de rencontrer, Jason Johnson. Attendez une seconde, vous êtes en train de me dire que Sandy s'est fait mettre en cloque et qu'ensuite elle a mis le grappin sur un homme riche et plus âgé pour qu'il l'épouse? J'imagine que c'est une façon de voir les choses. Excusez-moi, mais il y aurait plutôt de quoi se réjouir, non? Votre fille est passée du statut de fille-mère à celui de riche femme mariée en moins de 6 mois. Vous ne pouvez pas en vouloir à Jason pour ça. Jason Johnson m'a enlevé ma fille. Vous lui aviez dit qu'elle ne pouvait pas se marier. Eh, il faut connaître son enfant, pas vrai? À partir du moment où vous lui disiez non, c'était sûr qu'elle allait filer. Elle était trop jeune pour se marier. Racontez ça à celui qui l'avait mise enceinte. Vu de chez moi, elle a eu de la veine de trouver Jason pour réparer les erreurs d'un autre. Jason a profité de sa vulnérabilité. Si elle n'avait pas eu aussi peur, jamais elle ne m'aurait quitté pour un inconnu. Vous quitter? Quitter la sécurité de sa maison, corrigea Maxwell. Pensez à ça, capitaine. Ce type de 30 ans débarque de nulle part. Fait tourner la tête de ma vulnérable petite fille et l'emmène sans même me demander ma permission. Vous êtes furieux qu'il ne vous ait pas demandé la main de votre fille? Là où nous vivons, ces choses-là comptent, capitaine. C'est une question de convenance. Plus que ça, c'est une question de savoir-vivre. Vous aviez rencontré Jason Johnson?
Une fois. J'étais encore réveillée quand ma fille est rentrée un soir. Je suis sortie en entendant le véhicule dans l'allée. Jason est descendu de voiture et l'a raccompagné jusqu'à la porte.
Pas si dépourvu de savoir-vivre, on dirait. Il lui serrait le bras, capitaine, fermement, juste au-dessus du coude. Ça m'a frappée sur le coup, cette façon de la toucher, possessive, comme si elle lui appartenait.
Qu'avez-vous dit? J'ai demandé s'il avait conscience du fait que ma fille n'avait que 18 ans. Et
il a dit, et je cite, « Bonsoir, monsieur. » Il n'a jamais répondu à ma question. Il n'a même jamais paru l'entendre. Il est passé à côté de moi, a raccompagné ma fille jusqu'à la porte, puis a tranquillement redescendu les marches pour remonter en voiture. Au dernier moment, avec un signe de tête, il a dit « Bonne nuit, monsieur », et voilà. Ce connard arrogant est parti comme s'il avait absolument le droit de s'afficher en ville avec une lycéenne. Maxwell remua sur sa chaise. « Et je vais vous dire autre chose, capitaine. À l'époque, quand Jason parlait, il avait l'accent de chez moi. Peut-être qu'il avait Yankee maintenant, mais c'est un gars du Sud, aucun doute dans mon esprit. Si vous voulez rigoler un peu avec lui, emmenez-le donc manger du gruau de maïs. Je vous parie qu'il y met autant de beurre que n'importe qui. » De l'autre côté du miroir, Didi nota dans sa tête « Jason Johnson peut être né en Géorgie ou dans un état voisin. » Intéressant, parce que maintenant que le bon juge en parlait, il lui était arrivé de surprendre une inflexion dans la voix de Jason. Il la réprimait toujours, adoptait un ton monocorde, mais quelque chose persistait en toile de fond. Apparemment, leur principal suspect pouvait prendre un accent traînant. « C'est à peine 2 semaines plus tard que Sandy a disparu, » expliqua le juge. « J'ai retrouvé son lit soigneusement fait et son placard à moitié vide. Voilà, elle était partie. »« Elle vous a laissé un message ?»«
Rien !» répondit le juge avec énergie, mais sans regarder Miller.
Le premier mensonge flagrant de Maxwell Black.
« Alors dites-moi un peu, » enchaîna rapidement le juge, « quel genre d'homme fait disparaître une jeune fille vers une toute nouvelle vie sous un tout nouveau nom? Qui ferait une chose pareille? Et pourquoi ?»
Miller haussa les épaules. « Je vous écoute. Pourquoi croyez-vous que Jason Johnson est devenu Jason Jones ?»«
Pour isoler ma fille, » répondit immédiatement Maxwell, « pour la couper de son foyer, de sa ville, de sa famille. » Pour s'assurer que Sandy n'aurait personne à qui demander de l'aide quand il commencerait à faire ce qu'il voulait faire réellement.
Et que voulait-il réellement?
Comme vous l'avez dit avec éloquence, capitaine, pour quelle raison un homme pourrait-il vouloir réparer les erreurs d'un autre, sinon parce qu'il veut le bébé? Ou plutôt mettre la main sur un enfant dont la mère était trop jeune, trop dépassée, trop perturbée pour essayer de le protéger? Voilà plus de 20 ans que je suis magistrat. Suffisamment pour avoir vu cette triste histoire un nombre de fois incalculable. Jason Johnson n'est rien d'autre qu'un pervers. Il a pris ma fille pour cible. Aucun doute qu'il est déjà en train de préparer la petite Clarissa pour ce qui va arriver.
Il avait juste besoin de se débarrasser une fois pour toutes de Sandy.
Putain de merde, se dit Didi. Elle s'approcha du miroir.
Le bon juge était-il en train de dire ce qu'elle pensait qu'il était en train de dire ?
Jason Jones est un pédophile ? Demanda Miller pour l'enregistrement.
Et comment ?
Vous connaissez le profil comme moi, capitaine ? Une jeune épouse épuisée, avec des antécédents de dépression, de débauche, de consommation d'alcool, de drogue, isolée par un homme plus âgé et dominateur qui, lentement mais sûrement, la rend toujours plus dépendante de lui.
Jason et la petite Clarissa passent tous leurs après-midi seuls ensemble, ça ne vous fait pas froid dans le dos ?
Miller sembla considérer la question, mais ne fit aucun commentaire.
Pendant ce temps, Didi avait l'impression qu'une demi-douzaine d'ampoules électriques explosaient dans sa tête. Le profil défini par le juge était parfaitement correct, et il permettait de mettre à jour quantité de pièces du puzzle. Le goût de Jason pour les noms d'emprunt, le contrôle étroit qu'il exerçait sur les fréquentations de sa fille et de sa femme, son évidente panique à l'idée que Sandy s'était mise à fouiner dans l'ordinateur familial. Il fallait que Didi fasse tout de suite faxer la photo de Jason au Centre national pour les enfants disparus et exploités. Il la confronterait à leur banque d'images, constituée à partir de photos de sévices recueillies sur Internet ou lors d'autres affaires d'abus sexuels. S'il trouvait une corrélation, elle aurait de quoi justifier une arrestation, sans parler d'une nouvelle audition de Clarissa Jones. D'un seul coup, il tenait une piste. Sauf qu'elle ressentit à nouveau le même malaise. Elle se souvenait de la façon dont Reese s'était jeté dans les bras de son père après l'audition, de la tendresse qui se lisait ouvertement sur le visage de ce dernier. À cet instant, Didi avait cru à la réalité de leur amour, mais peut-être était-ce seulement parce que lui n'avait pas trahi leur secret. Il y avait des jours où ce métier était un peu merdique, et des jours où il l'était carrément.
Miller questionnait toujours le juge. « Vous pensez que votre fille est morte ?»
Maxwell lança à l'enquêteur un regard méprisant.
« Est-ce qu'on n'a jamais retrouvé une de ces femmes en vie ?»
« Voyons, Jason Jones a tué ma fille, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Aujourd'hui, je réclame justice. »«
C'est pour ça que vous avez fait des démarches pour obtenir un droit de visite auprès de votre petite fille ?»«
Évidemment. J'ai mené la même petite enquête que vous, capitaine, et le résultat n'est pas reluisant. Ma petite fille n'a aucun ami proche, pas de famille élargie, personne d'autre qui s'occuperait d'elle. Son père a très probablement assassiné sa mère. S'il n'y a jamais eu un cas de figure où une fillette avait besoin de son grand-père, c'est bien celui-là. »
Vous allez réclamer la garde ?
Je suis prêt à me battre.
Jason Jones nous affirme que Sandy n'aurait pas approuvé.
Voyons, capitaine.
Jason Jones est un menteur. Prenez des renseignements sur Jason Johnson. Que vous sachiez au moins à qui vous avez affaire. Vous avez loué une voiture, juge Black ?
Je vous demande pardon.
À l'aéroport, vous avez loué une voiture ou peut-être fait appel à un service de voiture avec chauffeur ?
Oh, j'ai loué une voiture, naturellement. Je me suis dit que j'aurais besoin de me déplacer en ville.
Il va me falloir le nom de l'agence de location, l'heure à laquelle vous avez pris le véhicule, l'heure à laquelle vous devez le rendre.
Bien, bien, bien. Mais pourquoi me harcelez-vous comme ça ? C'est pas moi le suspect, c'est Jason Johnson.
Jason Jones alias Jason Johnson, j'ai compris. Alors pourquoi n'avez-vous pas recherché votre fille ?
Je vous l'ai déjà dit, la seule manière de retrouver Sandy, c'est de démasquer son mari.
C'est triste de perdre sa fille et sa femme si jeunes toutes les deux.
Je me concentre sur ma petite fille. Je ne peux pas m'apitoyer sur mes propres tragédies. Ma petite fille est la seule chose qui compte à présent.
Et détruire Jason Jones.
Il m'a pris ma fille.
Avez-vous été surpris d'apprendre que votre fille se débrouillait très bien ici ? Mère dévouée, enseignante respectée, bonne voisine. Nous n'avons vraiment rien découvert qui évoque la dépression, l'alcoolisme ou l'autodestruction d'une manière générale. Peut-être que depuis la naissance de votre petite fille, Sandra s'était enfin assagie.
Maxwell se contenta de sourire.
Visiblement, capitaine, vous ne connaissez pas du tout ma Sandy.